Le cerveau est aveugle. Il habite dans une boîte noire, reçoit des informations de son environnement grâce à des milliers de capteurs et se crée sa propre réalité. Un mélange entre ses perceptions, ses émotions, son imagination, sa conscience. En défiant nos limites physiologiques, les extrêmes nous permettent de l'explorer. Par la pratique de l'apnée, par exemple, qui réveille nos instincts reptiliens. L'accumulation du CO2 déclenche les alarmes qui nous hurlent de respirer. Mais la volonté s'y oppose. La lutte est le premier réflexe. Pourtant, nous pouvons créer notre propre réalité. Trouver du confort dans l'inconfort, se libérer de nos pensées, aiguiser notre clarté. En retenant son souffle pendant plus de 7 minutes, Erwan Lecor plonge à la découverte de son propre esprit. Après avoir fondé Movenat, qui prône une reconnexion à notre héroïsme oublié, il nous propose dans ce nouvel épisode un voyage aux confins de l'attention. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Salut Erwan.
Salut David.
Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Parce qu'avec le décalage horaire, c'est le matin pour toi. Moi, c'est plutôt la fin de journée.
Ouais. Là, je viens de... Ça fait pas longtemps que je me suis réveillé. Je suis arrivé à Tampa, en Floride, pour m'entraîner pendant une semaine au niveau de la mer. On est à côté de... On est à côté de la mer ici en Floride. Et voilà, donc j'ai dormi comme un bébé. Je me sens très bien. Je bois un boisson magnésium, chocolat, enfin... Et puis on est en train de commencer à discuter là. Donc voilà, c'est un bon matin, ça se présage bien.
Ça se présente bien, cool. Bah, écoute, moi je te fais mon petit check-in. Je te fais mon petit check-in aussi. Pour être honnête, je suis en pleine traversée de chaos. D'un côté, j'ai ma boîte historique qui traverse une période un petit peu compliquée. J'ai des décisions assez difficiles à prendre et ça occupe une partie de mon esprit. Et puis de l'autre, j'ai Limitless Project qui est en train d'exploser. J'ai plein de projets autour de ça et ça m'excite énormément. Et puis je m'apprête aussi à recevoir ma seconde petite fille. Je le disais avant qu'on démarre, j'en avais une de 2 ans et demi. Et là, dans les jours qui viennent, la deuxième va naître. Donc on est aussi dans cette période de préparation d'arrivée d'un bébé.
Magnifique.
Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir le contraste parce que ma fille de 2 ans et demi commence à développer ses capacités exécutives, à trouver de l'autonomie dans plein de choses. Elle va toute seule aux toilettes, elle a pris sa douche toute seule la dernière fois sans même me le dire. Et de l'autre, je vais repartir avec un petit bébé qui au début est capable de rien. Tu vois, moi je me souviens quand Lucie est née, j'ai presque eu l'impression que c'était un organe humain. Tellement, tu vois, elle était violette, la tête en tube, les yeux fermés, etc. T'avais même pas l'impression que c'était encore tout à fait un humain. Et je comprends un petit peu le côté, enfin certaines personnes qui disent que les bébés naissent prématurés, d'une certaine façon, ça donne un petit peu cette impression-là. Mais donc voilà, donc je suis dans cette espèce de mélange d'énergie. Mais je suis très 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 heureux, Erwan, de te recevoir sur ce podcast. Parce que j'aime beaucoup ton approche, ta philosophie, j'aime beaucoup ce que tu as créé avec Movenat. Et puis c'est aussi une forme d'aboutissement, parce que j'ai dû te poursuivre pour réussir à t'avoir. J'ai eu une bonne partie de la famille Movenat entre Jérôme Brattoni et Vic Verdier. Et puis, entre le moment où tu m'as dit oui et le moment où on a réussi à trouver un créneau pour s'entendre, c'est passé quelques semaines. Donc, je suis vraiment ravi, heureux de te recevoir, de te voir enfin. À travers un écran malheureusement, mais ça me fait quand même vraiment plaisir.
Bon, écoute, c'est très gentil et pardonne-moi, et je suis là et ça me fait très plaisir aussi d'avoir cette conversation avec toi, David.
Et alors, dis-moi, qu'est-ce que tu t'entraînes pour faire quoi là en Floride?
Je m'entraîne pour rien faire du tout, pour attendre en fait. Je mets la tête dans l'eau. Le corps entier dans l'eau, quoi. Je flotte en fait la tête en bas dans une piscine et j'attends le plus longtemps possible sans respirer.
Ouais, parce que là tu as le record du monde des plus de 50 ans à 7 minutes et quelques,
non,
c'est ça?
Non. Je sais pas.
Le record des États-Unis, pardon.
C'est pas du tout un record du monde, absolument pas. Non. C'est un des deux records des États-Unis. Puisque je suis aussi citoyen américain je viens ici, je vais avoir une autre tentative cette semaine, en fin de semaine, pour rebattre ce record Et cette fois-ci, j'ai confiance que je peux atteindre ou dépasser les 8 minutes d'apnée. Donc c'est ça que je viens faire. Mais comme moi, j'habite au Nouveau-Mexique, à Santa Fe, et c'est en fait un désert de haute altitude. Si bien que je suis à 2150 mètres d'altitude. Donc à cause de la... D'ailleurs, tu vas me pardonner à l'avance, je vais me faire pardonner à l'avance par toi, hein, officiellement, et par nos auditeurs, c'est que j'ai le syndrome Jean-Claude Van Damme, et que c'est pas une tendance volontaire, mais souvent je cherche mes mots en français, alors que il y a 14 ans de ça, avant de déménager aux États-Unis, je me targuais d'avoir une excellente élocution, pardon, en français. Et maintenant, je cherche mes mots pitoyablement souvent. Donc voilà, ça c'est fait. Mais donc à cause de, on appelle ça comment en français, c'est la pression atmosphérique partielle, si je ne me trompe pas. Si bien que évidemment en altitude, tu peux tenir moins longtemps qu'au niveau de la mer. Donc au niveau de en altitude à 2150 mètres. Mon record personnel, j'en ai deux en fait. L'un est de 6 minutes 20 en piscine et l'autre de 7 minutes à sec. Ce qui devrait normalement se convertir dans à peu près les 8 minutes au niveau de la mer. Donc, du fait de ce différentiel de pression atmosphérique et donc d'oxygène et de diffusion d'oxygène. Voilà. J'espère que c'est.
Non, c'est très clair, c'est très clair. Et c'est un avantage de t'entraîner dans des conditions justement plus difficiles en altitude pour battre un record au niveau de la mer.
Je pense que c'est un avantage qui est plus psychologique que physiologique. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a eu tellement d'études qui ont été faites sur l'entraînement en altitude, avec aussi toutes sortes de différences entre, par exemple, s'entraîner en altitude, vivre au niveau de la mer, enfin, ou vivre à basse altitude, vivre à basse altitude, s'entraîner en altitude. Vivre en altitude, s'entraîner en basse altitude et toutes ces variations-là. Et en fait, on trouve jamais vraiment rien de si probant que ça. Donc, à mon avis, le plus grand avantage est d'ordre psychologique. C'est-à-dire que, par exemple, bon, la première fois que j'ai commencé à m'entraîner en apnée statique au niveau de la mer. Et quand je suis revenu en altitude, c'était humiliant, c'était dramatique, c'était frustrant. Et la première chose que tu dois faire, c'est de te rendre humble. Dire OK, bon, voilà, j'avais à l'époque un 7 minutes au niveau de la mer en très peu de temps, et tout d'un coup, je me battais pour retenir ma respiration pendant 3 minutes, quoi. Voilà. La première fois, c'était, je crois, 2,30 et super dur. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. J'ai réussi à atteindre un niveau bien meilleur en altitude. Mais si tu veux, voilà, ça, tu ne peux pas faire ce que tu peux faire au niveau de la mer. Et donc, ça te rend plus humble, plus patient. Mais en même temps, j'essaye de, dans mon approche, dans mon entraînement, de faire comme si je suis au niveau de la mer. Et donc quand finalement tu descends de ta montagne, tu arrives très fort dans la tête et tu sais que tu vas faire des apnées beaucoup plus longues, à peu près au moins 25% plus longues. Voilà.
Ouais, c'est un peu cet adage qui dit choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile, d'une
Voilà, il
certaine
y a
façon.
ça où entraîne-toi dur, bats-toi avec facilité, enfin ce genre de choses-là dans les arts martiaux. Voilà. Les Romains disaient, si je ne me trompe pas, si vit pacem, parabellum. J'espère que ma prononciation n'est pas trop pourrie. Mais en fait, voilà, qui veut la paix prépare la guerre. C'est exactement la même idée. C'est-à-dire que si tu veux être confortable dans une situation qui ne l'est pas, il faut que tu te rendes inconfortable dans des situations qui le sont, qui sont confortables. Voilà.
C'est quelque chose qui a un peu guidé ta vie, ça, le fait de, quand deux chemins s'offraient à toi, d'essayer toujours de choisir le plus difficile pour avoir une forme de croissance post-traumatique et puis progresser, peut-être être une forme de héros du quotidien.
Croissance post-traumatique. Il y a un aspect. Il y a un avion qui passe, je ne croyais pas que ce soit trop visible. Alors, pas forcément, parfois la voie la plus facile et la plus désirable. Ça dépend. Mais ça dépend du contexte, ça dépend de ce que tu cherches. Mais c'est vrai que comment se connaître sans pousser ses limites? C'est possible dans certains aspects. Alors, la connaissance de soi, d'abord la base, hein, c'est la connaissance de soi, c'est peut-être la connaissance la plus importante qui soit. Les Grecs ne disaient-ils pas connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, si tant est qu'il y en ait plus qu'un, mais ça partait de l'idée de connais-toi toi-même. Alors, comment est-ce qu'on se connaît soi-même? Voilà, on peut se regarder dans le miroir, une forme de connaissance de soi. On peut.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
On peut décliner à tout va son identité. Moi, je suis auvergnat, moi, je suis breton, moi, je suis kabyle, moi, je suis. C'est rien, peu importe. Bon, voilà. C'est une façon de se connaître, en tout cas de connaître son identité, d'où on vient, sa culture, son, etc. Et puis ensuite, il y a la connaissance de sa propre conscience. Je ne parle pas juste de la conscience morale, je parle de la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le soi? Donc là, on retourne vers la philosophie. Donc cette connaissance de soi, elle peut se faire en étant très patient, très doux, on va dire, avec soi-même, très attentif. Et de part d'autre côté, il faut aussi, cette connaissance de soi ne s'acquiert que par la discipline personnelle. La discipline personnelle, évidemment, ça implique qu'il y ait de la difficulté, parce que personne n'a besoin de discipline personnelle quand tout est facile. C'est pas nécessaire. On a besoin de discipline personnelle quand il y a un challenge, soit en intensité de durée courte, soit sur la durée, donc moins d'intensité, mais la consistance. Voilà. Par exemple, le simple fait de dire, voilà, je vais m'atteler à tel programme, telle discipline. Alors, ce n'est pas forcément très dur, mais il faut le faire, par exemple, pendant un mois complet. Bon, les gens qui veulent déjà, ils sont super motivés pendant une heure, et puis premier jour, deuxième heure, ça y est, ils ont déjà abandonné. Voilà, donc ça c'est juste un exemple, c'est pas un jugement, c'est juste une observation. Par exemple, est-ce qu'on est capable d'avoir de l'intention prolongée, de prolonger son intention? Bon, eh bien, quand on découvre que c'est pas le cas, eh bien, on découvre que peut-être on manque de discipline personnelle. C'est difficile d'avoir du succès dans la vie sans discipline. Donc, c'est un aspect très important. De la vie, à mon sens, très très important.
Puis je pense aussi que, tu vois, cette ténacité, cette discipline, comme tu l'appelles, discipline personnelle, c'est un petit peu comme tout, c'est un muscle et il se renforce que s'il est travaillé, que s'il est challengé. Tu vois, tu prenais l'exemple de celui qui s'est engagé dans un problème, dans un programme sportif et puis qui avait du mal à tenir, qui allait rapidement abandonner. Peut-être que c'est le cas au début et puis après, s'il y arrive, qu'il commence à avoir quelques victoires personnelles, ben il va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et en fait, j'ai l'impression que toutes ces victoires personnel, ou même les échecs d'ailleurs, des échecs qui parfois ont été difficiles, mais duquel on a réussi à se remettre et à rebondir, sont autant de croyances ressources par la suite qui nous permettent d'exprimer pleinement notre potentiel, parce que on sait qu'on est capable d'eux, on sait qu'on est capable de plus que ce qu'on pensait initialement. Et je pense que, tu vois, c'est un peu comme si on vivait dans un aquarium. J'aime bien cette image de l'aquarium. Et puis que les parois au début sont toutes petites. Puis au fur et à mesure que tu explores ta vie, t'as parlé de différents types d'exploration, par exemple court et intense, comme pourrait l'être l'apnée, ou à l'inverse des choses beaucoup plus longues. Moi, j'ai découvert des choses folles en faisant de l'alpinisme, des courses ultra, ou même l'exploration de la conscience avec du yoga tummo ou de l'ayahuasca. Enfin, c'est plein de voies différentes, mais qui en fait sont toujours un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire cette quête de soi-même. Bah, petit à petit, t'élargis ces parois de ton aquarium, et c'est un peu comme si tu changeais les lunettes avec lesquelles tu observais le monde.
Exactement, mais c'est la grande aventure de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? En fait, il y a le côté biologique, bien entendu. On a un cœur qui bat, on a des poumons qui respirent, on a des cellules qui grandissent, qui croissent, qui se reproduisent, ou d'autres qui meurent, etc. Bon, ça, c'est la vie biologique. Et puis ensuite, il y a la vie de la conscience. Au fond, ce qu'on est, dans le moment, ce qu'on est, c'est là tout de suite, là, dans ce moment-là, tout de suite, maintenant. C'est tout ce qu'on est. C'est cette conscience-là. Et cette conscience-là, elle est capable de se déterminer, elle est capable de s'explorer, elle est capable de se comprendre, elle est capable de se manifester, de s'exprimer, elle est capable de se découvrir, elle est capable de s'agrandir, elle est capable de se modifier. Cette conscience-là, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Tout ce que l'on croit être ou tout ce que l'on est finalement, c'est juste une juste et juste et pas c'est pas limitant ou réducteur. C'est une expérience de la conscience. Cette expérience de la conscience, c'est magnifique, c'est profond, c'est extraordinaire. Et au fond, quand les gens pensent même à leur propre mort, parce que pour mettre ça en relation avec la vie. La beauté de la vie, l'intensité de la vie, le miracle de la vie. Au fond, ce dont les gens ont peur, ce n'est pas la mort physique immédiate, c'est la fin de cette conscience. C'est que cette conscience se termine. Donc, même quand les gens, certaines personnes n'ont pas réussi à trouver dans cette vie un but ou une satisfaction à être cette conscience, à faire l'expérience de cette conscience, même là, dans la plupart des cas, quand ils sont confrontés à la possibilité que, tiens, peut-être, cette conscience-là va se terminer, là, dans une minute, dans 10 secondes, dans un jour, ou dans, peut-être même dans un an, tout d'un coup, ça remet tout en place, ça remet tout en question. Parce que tout d'un coup, tu dis, mais attends, non, je sais que je me suis plaint, je sais que j'ai beaucoup, j'étais plein de frustration, de ci, de ça, mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà. Donc, c'est quand même un cadeau magnifique d'être en vie. C'est pas tout le monde qui est en vie, c'est pas tout le monde qui est resté en vie longtemps. C'est pas tout le monde qui est venu à la vie. Mais nous, on l'est. Donc, il y a quelque chose de sublime. Et on a tous en soi le potentiel de trouver effectivement de la beauté à cette expérience et d'en faire quelque chose de aussi satisfaisant que possible. Voilà. Alors, quand je dis satisfaisant, c'est pas forcément dans le plaisir ou la satisfaction permanente. Il y a ça fait partie, les plaisirs, les satisfactions. Les satisfactions, parfois, c'est aussi pour aller chercher quelque chose. Pour aller chercher quelque chose, c'est pas facile. C'est quand c'est pas facile, c'est quand c'est rare ou quand c'est pas facile qu'il y a du plaisir, puisque il y a plus de satisfaction, puisque justement, c'est rare et il faut donner de soi. Voilà. Bon, on pourrait en parler toute la journée, mais c'est fait partie de la vie. Donc, la discipline personnelle en soi n'a strictement aucun intérêt en soi. Or, aucun. On s'en fout. C'est un moyen. Donc, c'est un moyen, c'est comme un outil, c'est comme c'est un moyen de d'aller vers l'expérience qu'on recherche. Et l'expérience qu'on recherche, elle en fait, c'est un continuum. Il n'y a pas de vraie séparation dans l'expérience. Ça continue, ça évolue, mais ça s'arrête pas. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quand on cherche un but, quand on a un objectif, on cherche un but. Le but en soi n'est pas, c'est l'illusion, c'est que le but en soi est important. Le but en soi n'est pas important. C'est l'expérience qu'on retire lorsqu'on atteint ce but. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme l'expérience est un continuum, le chemin vers ce but, c'est aussi l'expérience. Donc, il n'y a pas de différence entre, par exemple, l'entraînement et la performance et le record ou être un finisher ou je ne sais quoi pour les sportifs qui se reconnaissent dans cette idée athlétique du dépassement de soi, de la discipline personnelle, etc. De toute évidence, les gens qui s'impliquent eux-mêmes dans ce type de recherche, dans ce type d'objectif, et donc ils doivent donner d'eux-mêmes, sont intéressés par l'expérience elle-même, et pas juste l'expérience de la course, pas juste l'expérience du combat ou de l'événement sportif, mais toute la préparation, et pas juste la préparation physique, toutes les pensées qui sont mises dedans, les espoirs, les émotions. Les hauts, les bas, etc. C'est une façon de d'élever l'expérience, d'intensifier l'expérience. Parce que soit c'est ça, soit c'est peut-être l'ennui. L'ennui n'est pas une expérience très convaincante. Cela dit, et je voulais pas parler trop longtemps, il y a aussi, on peut aussi magnifier, j'espère que le mot se dit en français, son expérience. Sans, enfin, d'une autre façon. D'autre façon, on peut être un jardinier, on peut regarder les plantes pousser et le faire avec tant de d'attention et tant de d'amour et tant de d'intensité, hein, de que cette expérience-là, elle est exceptionnelle également. Chacun peut trouver à sa façon différentes voies de faire en sorte que l'expérience de soi soit satisfaisante, soit plaisante, soit ce qu'elle est, c'est-à-dire vraiment absolument magnifique. Comment dire, l'opposé étant tout ce qui est finalement négatif, tout ce qui est déplaisant et pour la plupart, enfin pour une bonne partie, ça a à voir avec ce qu'on crée, l'expérience que l'on crée. Alors, je suis pas content, je suis frustré, tout va mal, etc. J'ai jamais de chance. Ça, c'est des choses qu'on crée aussi. Donc, on peut créer de la beauté dans l'expérience, mais on peut aussi créer son contraire. Le montant d'énergie et de temps et d'énergie est exactement le même.
Oui, complètement. Il y a une espèce de nivellement vers la voie du milieu. Tu vois tes collègues aussi d'une certaine façon, et donc ça te donne l'impression que c'est la seule voie possible. Et puis tu restes enfermé avec tes propres pensées, tes propres croyances limitantes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que quand tu essaies de repousser les limites ou d'aller chercher des objectifs un peu intenses, en réalité, le chemin est sa propre récompense. Et que cette intensité, tu peux la vivre dans quelque chose qui peut sembler extraordinaire aux yeux des gens, ou même dans des choses extrêmement simples, comme tu le citais, et comme moi, je peux le vivre lorsque je vais me promener simplement avec ma fille dans la forêt. Et ça, c'est des moments de plus haute qualité, tu vois. Et en même temps, je dois dire que les expériences que j'ai vécues, je te parlais d'alpinisme. L'alpinisme, je trouve que c'est une bonne métaphore de tout ça parce que t'avances, tu vois le sommet au loin, il paraît inatteignable. Et puis en fait, en mettant simplement un pas devant l'autre, tu te surprends presque à y arriver. T'es presque surpris quand t'es en haut, tu vois. Et puis t'as cette célébration, cette beauté d'avoir conquis un sommet, mais surtout de tout le chemin. Et c'est le chemin qui rend la conquête belle, comme tu le disais. tu vois, vis-à-vis de cette notion de conscience, je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment été confronté au risque physique ultime, dans la mesure où dans la vie de tous les jours, on est préservé. Même si j'ai pu faire des choses à sensation forte, comme du saut en parachute, de la course sur circuit, ce genre de choses, en réalité, le risque, il est maîtrisé. Par contre, quand tu marches sur une corniche qui fait 30 cm de large, que tu as le vide des deux côtés, là, tu sais que si tu tombes, tu meurs et que c'est fini, quoi. Et pour moi, en tout cas, et j'en ai parlé plusieurs fois sur ce podcast, le fait de me reconfronter à la mort, le but c'est pas de la chercher, bien évidemment. Au contraire, j'ai très envie de vivre très vieux et de connaître mes petits enfants, etc. Mais le fait de découvrir que j'étais mortel, justement, m'a permis de me dire, ok, je suis incarné dans un corps, j'ai la chance d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie. Il faut que j'y joue, tu vois. Et je dois vivre cette vie la plus intense possible, explorer mon potentiel et puis justement vivre avec intensité dans tout ce que je fais, parce que tout ça a une valeur. Et j'ai le sentiment que le fait de vivre dans des intérieurs confortables, calfeutrés, où le danger n'existe plus, protégé par des pompiers, par la police, en fait, on nous enlève toute forme de responsabilité individuelle dans la réponse à nos besoins physiologiques et à nos besoins de sécurité. Et quelque part, peut-être que ça atrophie notre soif de vivre.
Bon, alors. Il y a quand même du bon à ça. Il y a du bon à la sécurité. Il faut quand même le dire. Il y a du bon à avoir une vie où il y a du confort, de la, tout, les choses sont prévisibles et elles sont, se sent en sécurité. C'est important de vivre en sécurité. On pourrait quand même pas vraiment profiter de la vie de la même façon si tous les jours on était confronté à l'insécurité ou au danger. Maintenant, comme il est bien dit dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ou je ne sais plus quoi, j'ai dû regarder ça avec mes enfants, et à un moment, il y a l'impératrice chinoise qui dit tout le monde a deux vies. La seconde commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. C'est très profond. Et c'est très vrai, le moment où on réalise vraiment et vraiment qu'on n'a qu'une vie. Et je sais bien que tout le monde pense le savoir, mais le savoir intellectuellement, c'est juste une considération. Le ressentir comme tel, quand tu te souviens que tu n'as qu'une vie, chaque moment devient précieux. Chaque moment devient précieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand chaque moment devient précieux? Tu commences à te demander si être frustré, si être négatif a aucune espèce d'intérêt. Si tu te dis, ok, c'est mon dernier jour, tous les jours, ça pourrait être mon dernier jour. Et effectivement, ça a été le cas et c'est le cas tous les jours pour un bon nombre de personnes qui n'ont aucune espèce de... qui ne savent pas que c'est leur dernier jour. Parce que quelque chose va se passer. Voilà. Donc, et ce quelque chose qui va se passer, qui t'enlève la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Absolument n'importe qui. Donc, quand on prend vraiment conscience de ça, quand on prend vraiment conscience de la profondeur de l'expérience, de la vie, de la conscience, on va juste par l'attention et par la gratitude aussi, donner beaucoup plus d'intensité, de sens à chaque moment. Voilà. Bah, c'est quand on vit comme ça, on vit beaucoup mieux déjà. On vit déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça change vraiment beaucoup de choses. Alors, par rapport au se confronter au danger. Quand j'étais petit, ma chambre, j'avais 6 ans, je crois, 7 ans peut-être. Ma chambre, elle était à l'étage et elle avait une rambarde comme ça en métal. Et moi, je passais au-dessus et je m'accrochais comme ça avec les pieds dans le vide. Voilà. Je m'accrochais à la barre avec les pieds dans le vide. Alors bon, si j'étais tombé, peut-être, je ne sais pas, je me serais cassé une jambe, je ne serais pas mort. Mais l'idée déjà, pour moi, c'était, hein, c'est l'esprit d'un petit garçon de 6-7 ans. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de garder mon calme quand je fais ça? Et à peu près 10 ans plus tard, à l'âge de 17 ans, non, je crois que j'en avais plutôt 18, 19. Bon, bref. Je fais la même chose, mais du haut d'une grue. Une grue de construction. Donc, je monte à la grue. Alors, je n'invite personne à faire la même chose. Mais je monte tout en haut de la grue. Je vais tout au bout de la flèche. Et à la dernière barre. Et je me mets comme ça, avec le corps en entier dans le vide. Là, ça aurait été une chute mortelle, évidemment. Je refais la même chose. Le but, comme tu dis, le but, c'était pas de risquer ma vie. Absolument pas. Je l'ai fait avec la plus grande prudence possible. Le but, c'était de, au contraire, de vraiment de me ressentir en vie. Bon, pourquoi on parle de ça? Il y a un hélicoptère là qui bon, à côté. Quand je fais des longues apnées, il y a tout un chemin qui se fait, qui est en fait, c'est beaucoup de vide, c'est aussi beaucoup de présence. C'est-à-dire que tu retiens ta respiration pendant des minutes, plusieurs minutes, mais ton esprit est très très calme. Plus il est vide, plus il est plein, en fait. Il y a besoin de très peu de pensées, puisque les pensées, qu'est-ce que c'est? C'est une description. Pensée, c'est pas une expérience, c'est pas l'expérience des choses auxquelles tu penses, pensée. Pensée, c'est l'expérience d'avoir une représentation mentale de telle ou telle chose ou expérience. Voilà. Autrement dit, quand tu es en train de retenir ta respiration, la pensée n'apporte rien du tout. Sauf si tu dois rectifier ton message personnel. Bon, je digresse un peu, mais c'est-à-dire que en fait, tu peux avoir des tentations, des doutes, et tu dois à chaque fois te recadrer. Donc, si ces pensées surviennent, d'autres pensées doivent s'y substituer, doivent les remplacer pour te recadrer dans ton objectif. Mais ce dont je voulais parler essentiellement, c'est que la pensée devient facultatrice, devient accessoire à l'expérience. L'expérience de la conscience ne passe pas forcément par la pensée, première chose. Et deuxièmement, quand tu pousses vraiment les limites de l'apnée, je sais pas ce qui se passe. Les préparations nucléaires, ça n'arrête pas de. Si tu l'entends très fort ou pas. Cherche quelqu'un. Quand tu pousses vraiment les apnées à l'extrême, tu arrives à un point qui s'appelle un état hypoxique, où en fait ta réserve d'oxygène a décru tellement que même ton, je sais pas le dire en français, le syndrome Van Damme, prefrontal cortex, c'est bon, la partie du cerveau à l'avant comme ça qui néocortex, je
Le
pense,
néocortex, ouais.
qui est
Cortex
responsable, en fait,
préfrontal, ouais.
qui est en fait responsable pour la conscience consciente, si je peux dire, c'est-à-dire être capable de former des pensées, d'observer le monde qui t'entoure, etc. C'est là où tu es sur le point, en fait, de perdre conscience, parce que le peu d'oxygène qui te reste, il t'en reste, hein, mais bon, il va être préservé, et donc le cerveau va faire des choix. Il va transférer l'oxygène vers des régions plus profondes du cerveau pour se préserver au cas où la respiration ne reprend pas et donc il n'y a plus d'oxygène qui va revenir. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que dans cet extrême-là, le cerveau et donc la conscience, le corps, enfin, tout ça ne fait qu'un, en fait, se prépare à la mort, se prépare à la possibilité de mourir. Ni plus ni moins. Donc c'est intéressant que le danger peut survenir. À ce moment-là, le danger survient de façon très progressive. Et ce n'est pas, ça ne vient pas d'une source extérieure. Ce n'est pas dû à une confrontation avec le monde physique. Un petit peu si quand même du fait que ça a rapport avec le niveau d'oxygène. Mais tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas extérieur, c'est complètement interne. Et donc ce que j'aime dans l'apnée, c'est le fait que tout dépend de toi. Tu peux pas dire ouais, le temps a changé ou l'équipe adverse s'est remotivée ou je ne sais quoi. Si tu interromps ton apnée bien à l'avance, tu es responsable. Il s'est passé quelque chose en toi. Si tu la prolonges jusqu'au bout, tu es responsable aussi. Ton intention, c'est prolonger jusqu'au bout, jusqu'à la limite physique. Voilà, donc c'est intéressant ce qu'on peut faire avec la conscience. C'est intéressant toutes les façons dont on peut l'explorer. On peut se confronter à des choses externes, on peut se confronter à quelque chose d'interne pour mieux se connaître. Et puis aussi, mieux se connaître, c'est très bien, mais c'est aussi profiter de la vie qui compte. Donc, il faut aussi, parfois, même souvent, tous les jours, simplement ne profiter de la vie, quoi. Profiter du moment. C'est pas juste non plus la discipline personnelle, l'entraînement, etc. Donc ça, c'est dommage.
Ouais,
On rate des
après,
fois.
tu ouais, je pense que, enfin, tu vois, sur cette question de discipline, moi, en tout cas, j'ai dû aller dans l'extrême pour réussir à rapporter de la flexibilité après. Je pense que le cerveau déteste les ruptures de cohérence. Il a besoin de se créer un monde qui est cohérent. Et donc, si tu lui fixes des objectifs, un certain cadran, etc., pour atteindre tel objectif, faire de temps en temps des entorses, c'est quelque chose qui, d'un point de vue cognitif, est difficile à gérer pour lui. Et par contre, après quelques mois de discipline personnelle, je pense que tu peux en garder les avantages tout en apportant de la flexibilité. Et d'ailleurs, c'est ce que ma fille, qui est un petit générateur de chaos, a fait en arrivant dans ma vie. C'est que moi, j'avais une discipline très très forte, des journées très organisées parce que je suis quelqu'un de passionné et un peu hyperactif. Et elle est venue gommer les lignes de mes cases. Et maintenant, j'arrive à bien vivre avec cette flexibilité-là. Mais je pense que j'ai eu besoin de passer par une phase plus extrême pour réussir à atteindre ce lâcher prise. Et ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur l'apnée, je vais y revenir. Mais avant, peut-être qu'il y a quelque chose de plus accessible aux auditeurs qui a inspiré des stoïciens qui faisaient de la visualisation négative. Donc, ils s'imaginaient, par exemple, ils imaginaient leurs proches en train de mourir ou eux-mêmes en train de perdre la capacité de bouger, leur corps, leur santé. Et je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive parfois de le faire. Et je trouve que très naturellement, même si c'est pas confortable, ça permet facilement de remettre le doigt sur l'essentiel, sur les gens qui comptent sur toi et éprouver beaucoup de gratitude pour ce que tu as déjà. Parce qu'on est souvent dans tu parlais de frustration tout à l'heure. On est parfois dans la frustration de ce qu'on voudrait atteindre, de ce qu'on n'a pas encore, sans prendre conscience de la chance de ce qu'on a déjà. Tu vois, déjà à commencer par nous, un corps en pleine santé, capable de bouger, de respirer, des gens qu'on aime, un toit, etc. Donc c'est déjà merveilleux. Et imaginer qu'on pourrait le perdre, je trouve, est souvent riche d'enseignements à cet égard. Et on peut pousser l'expérience de pensée un peu plus loin, quand tu disais que on peut tous mourir demain. Et bien sûr, on le sait d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, c'est difficile d'en prendre conscience.
Voilà, le point de vue pratique, c'est ça la
Et
différence.
on peut essayer de se dire que chaque journée, en fait, est une mini-vie, et chaque nuit, une mini-mort. Et donc, essayer de mettre toute l'intensité possible, toute la conscience, en tout cas possible, dans le fait de vivre pleinement chaque mini-vie. Et c'est bien parce que déjà, ça pousse à en profiter pleinement. Mais ça relativise aussi ce qu'on peut faire de mal, parce qu'on se dit, ok, c'est pas grave, demain je recommence une nouvelle mini-vie. Ça doit pas te déculpabiliser de tout, tu vois, mais ça te donne quand même la possibilité de redistribuer les cartes tous les jours.
Complètement, complètement.
Et sur l'apnée, donc j'adore ce que tu racontes, et tu dis quand les niveaux d'O2 descendent tellement bas que le corps se prépare à mourir, ça veut dire que tu as déjà passé la première alarme, puisque la première alarme, elle est au niveau de l'accumulation du CO2. Donc ça veut dire que tu as déjà passé, entre guillemets, cette forme d'angoisse où ton corps te crie qu'il doit respirer.
Oui, alors bon, moi j'ai une théorie différente sur, sur la tolérance
Éclaire-moi.
CO2. Moi je parle de tolérance tout simplement. Il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas juste le CO2 qui fait que tu as besoin de respirer. Il y a d'autres facteurs. Mais donc c'est effectivement une question de tolérance par rapport à des sensations très déplaisantes que tout le monde connaît, puisque tout le monde a essayé au moins une fois dans sa vie de retenir son souffle, ou y a été contraint parfois par un grand frère méchant, ou je sais pas, peu importe. Parfois en tombant dans l'eau et en paniquant, ça arrivait à plein de gens. Donc je parle de tolérance. Et parce que c'est la tolérance à l'inconfort, évidemment, quand on se prive de respiration volontairement, c'est un choix volontaire, donc c'est un choix de la conscience. Et puis il y a la partie autonomique, autonome du cerveau, végétative, je crois qu'on dit en français, qui, elle, a d'autres. Une autre vue sur la chose et d'autres responsabilités, donc qui a aussi sa propre capacité exécutive. Et donc on se retrouve dans un conflit cérébral, un conflit cognitif, où une partie du cerveau qui a une capacité exécutive, la conscience, décide de dominer la partie végétative. Et la partie végétative qui, elle, dit, c'est bien mon petit gars, mais j'ai moi aussi mon pouvoir exécutif propre, et je vais donc te contrecarrer, et je vais reprendre le contrôle, et donc je vais te dominer. Alors, il y a un moment, bon, comment dire, cette partie végétative, soi-disant végétative, comme si c'était un légume, mais alors en fait qui est très puissante et très active du cerveau, parce qu'elle assure notre survie, elle ne communique pas de la façon dont elle ne raisonne pas, elle ne fonctionne pas de la façon dont notre conscience opère. Notre conscience opère avec en grande partie grâce à la pensée, mais pas seulement. Mais l'autre partie, elle, c'est sous forme de, en fait, d'une réponse physique, physiologique, émotionnelle, hormonale, qui te parle, mais sans te parler, quoi. C'est comme un gamin, quoi. Te remue, il te fait comme ça, il te crie dessus, enfin, peu importe. Il n'y a pas de. Tu te dis, mais c'est pas très rationnel. Ça a pas, heureusement que c'est pas rationnel. C'est très rationnel d'une autre façon. Ça n'a pas besoin d'être rationnel de la façon consciente. Donc c'est très intéressant le psyché et la cognition parce qu'on a vraiment, on est vraiment très très bien équipé avec beaucoup de possibilités. L'une, c'est d'être très primal, très instinctif, et l'autre, c'est d'être très raisonné. Il faut trouver l'équilibre. Donc voilà, donc il y a ce conflit qui se passe à l'intérieur du cerveau, qui est donc à la. Je veux dire, à l'intérieur du cerveau, pas à l'intérieur du corps. Le cerveau, c'est le corps. Que tout est à la fois physique et tout est à la fois complètement spirituel. Il y a ce conflit qui se passe et comment est-ce qu'on retrouve l'équilibre et l'harmonie? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on conserve sa clarté mentale et sa stabilité émotionnelle et donc sa relaxation physique le plus longtemps possible? Lorsqu'on est confronté à ce conflit cérébral. Et justement, de travailler sur cet équilibre, cette coopération, en fait, cette entente, même si au bout d'un moment, elle est plus soutenable, il y a un moment où c'est pas l'esprit vainc la matière, c'est la matière va vaincre l'esprit parce que justement, sans la matière, c'est-à-dire l'oxygène, l'esprit disparaît. Il est parti où l'esprit? On ne sait pas. Il n'y a plus d'oxygène, donc le corps ne peut plus produire de pensée, donc il n'y a plus d'esprit. Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est physique? C'est une grande question. Mais J'en peux plus de ces hélicoptères. Ils n'arrêtent pas. Bon, voilà, donc j'aime ces grandes questions, j'aime les grandes questions philosophiques, mais en même temps, j'aime l'application pratique de la philosophie, l'application pratique des idées. Et donc l'expérience physique, l'expérience tangible de ce qui est intangible, l'idée, le concept. Alors on peut penser à toutes sortes de choses pendant des heures dans sa tête. Mais une fois de plus, ce sont des représentations, c'est des considérations, ce sont des hypothèses, c'est de l'interprétation. Par exemple, si je dis manger un bon repas, j'ai faim, je veux manger un bon repas, je suis en train de manger un bon repas, mais en fait, j'ai toujours rien dans le ventre. Si on parle de l'eau, comme le disait Alan Watts, tout d'un coup, ça ne nous rend pas humide, on n'est pas mouillé. Tiens, regarde, je t'arrose. Alors, pas mouillé, c'est des mots. Donc, si on parle du silence, n'a pas l'expérience du silence. On a donc de quelle expérience est-ce qu'on parle à ce moment-là? Ben, on parle de l'expérience de parler du silence, une représentation du silence, une considération intellectuelle, conceptuelle par rapport au silence, mais on n'a pas l'expérience du silence puisqu'on est en train de chatcher et que on s'entend. Et même quand on parle dans sa tête, qui est la nature même de la pensée, c'est de se parler à soi dans sa tête, on se parle et on s'écoute. C'est sa pensée. On se parle et on s'écoute. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Qu'est-ce que c'est le message? Voilà, donc penser, ce n'est que ça. C'est penser, c'est faire l'expérience de la pensée. C'est pas faire l'expérience de l'objet de la pensée. Donc, dans l'apnée, toutes ces considérations philosophiques, pas toutes, mais un bon nombre de ces considérations philosophiques, se trouvent exposées à la réalité physiologique, à la réalité tangible et matérielle du corps. Et donc l'esprit, lui, ne va plus être dans une considération philosophique. Il va être dans une application philosophique. Il va être obligé de déterminer quelle expérience il souhaite produire dans ce moment de challenge physiologique, dans ce moment de challenge neurologique et hormonal. Il y a une réaction intense du corps qui se produit. Parce qu'il y a une partie du cerveau qui sait exactement ce qui est en train de se passer. Effectivement, le niveau de CO2, de carbone, de dioxyde de carbone s'élève à mesure que le niveau d'oxygène décroît. Et la finalité de ça, si ce processus se poursuit, c'est la fin. C'est la fin du corps, c'est la fin physique, c'est la fin mortelle du corps. Donc il y a tout un tas d'implications très profondes qui se déclenchent dans ce processus, qui se déclenchent sur la base physiologique et qui ensuite atteignent la neurologie et donc l'émotionnel et donc le mental et donc le spirituel. Et dans ce processus d'intensification de la sensation déplaisante, de la possibilité d'avoir peur. Il y a l'opportunité de déterminer l'esprit, donc l'esprit spirituel. Par essence, quand on dit l'esprit, on parle donc. Le mot spirituel, c'est l'esprit. De se déterminer. Déterminer. Il y a deux choix possibles. L'un, c'est de dire c'est insupportable, j'en peux plus, je déteste ça, je vais mourir, j'en sais rien. Quand est-ce que c'est terminé? Pourquoi est-ce que je fais ça? Etc. L'autre, c'est le calme, la compassion pour soi, parfois dans un moment de temporaire de relative souffrance, on va dire, qui n'est pas si intense que ça d'ailleurs. La patience, la confiance, la volonté, la consistance, la clarté, la gratitude. Parce qu'on se souvient que, allez, dans pas si longtemps que ça, je vais respirer de nouveau. Et surtout, je me souviens que je suis en vie. Voilà. Donc, l'esprit s'invite lui-même à travers une manipulation du corps, à travers une manipulation de la physiologie à laquelle il est attaché, s'invite à s'exprimer, à s'autodéterminer, en fait, c'est de l'autodétermination dans le moment. Donc, c'est pas de dire je suis fort, je suis moi, je suis important, je suis spécial ou je suis voici mon nom, voici mon âge, voici mon identité. C'est pas ça. C'est dans le moment. C'est je suis calme, je suis confiant, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus rien du tout. Il y a plus de pensée nécessaire. C'est juste le moment. Le moment, la contemplation, c'est le principe de la méditation. Donc on peut arriver en fait à des états comme on dit en français.
De conscience modifiée.
Complètement, mais de toute façon, la conscience modifiée, oui, quand on tout est pour moi la conscience, elle est constamment modifiée de toute façon. Quand tu penses, quand tu as des émotions, quand tu regardes quelque chose, tu modifies ta conscience, de toute façon. Mais la question, c'est est-ce que la conscience se modifie elle-même? Est-ce que la conscience est se modifier elle-même à volonté? Est-ce que la conscience est se modifier elle-même d'une façon qu'elle souhaite? Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans l'apnée, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la conscience? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que la conscience choisit de. J'arrive pas à le dire c'est alarmant. J'arrive plus à le dire en français. J'essaie de traduire de l'anglais, en fait. Je parle tous les jours en français. Qu'est-ce que la conscience se fait passer à soi-même, si ça a du sens. J'espère que c'est pas trop Jean-Claude Van Damme, mais voilà, c'est ça la question. C'est quand on te demande qu'est-ce qui t'arrive, donc tu dis mais alors qu'est-ce qui arrive à la pauvre petite conscience là, privée de respiration, ce qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la conscience, ça a à voir avec le corps. La respiration c'est physique, mais évidemment il y a un impact sur la conscience. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la conscience? Qu'est-ce qui lui arrive à la conscience? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que la conscience décide de se faire à soi? En quoi, de quelle façon est-ce qu'elle décide de s'exprimer? Qu'est-ce
Non,
qu'elle décide
c'est
d'être, qu'est-ce
ouais.
qu'elle décide d'être malgré le. Je vais terminer. Malgré le challenge. Et quand tu arrives à t'auto-déterminer de cette façon-là, quand tu es dans ta bulle, donc il n'y a pas d'interaction avec le monde extérieur, tu ne peux pas dire oui, mais je suis impatient, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause, c'est jamais toi, c'est toujours c'est machin qui m'a dit ça, le monde, au bureau, j'en sais rien. Quand tu arrives à faire ça, tu deviens vraiment pleinement responsable pour ton expression. Voilà. J'ai eu un très bref moment de frustration et à un moment, les hélicoptères qui tournaient. Ok. C'est pas la faute des hélicoptères. La frustration que j'ai, dont j'ai fait l'expérience pendant une seconde, c'était moi. Voilà. Parce que je préférais qu'il y ait du silence. Les hélicoptères n'arrêtent pas de tourner depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Donc quand on a compris ça, on a plus, on a un avantage par rapport à notre interaction avec les autres et avec le monde, et avec la réalité externe à soi, parce que on a gagné un avantage en termes de responsabilité, de l'expérience qu'on est dans le moment. Est-ce que ça a du sens?
Complètement. Mais tu vois, j'avais lu un témoignage de la méthodologie que tu as développée, de quelqu'un qui disait que il avait fait son premier test d'apnée, il avait tenu 1 minute, puis un mois après, il avait multiplié par 4, il avait tenu 4 minutes, et il trouvait ça complètement incroyable. Et en un mois, c'est vrai que c'est fou d'imaginer que des adaptations physiologiques puissent être suffisantes que pour multiplier par 4 le temps d'apnée. Mais ce que je comprends de ce que tu me partages, c'est qu'en réalité, le jeu, il est surtout d'un point de vue gestion et maîtrise de soi. Et en réalité, le réel n'existe pas. Le cerveau, il est un petit peu dans une boîte noire et il interagit avec le monde, avec son environnement, grâce à des tas de capteurs auditifs, sensitifs, etc. Et il mélange ces perceptions-là avec ses expériences de pensée, avec ses processus mentaux. Donc le réel est à chaque fois en fait un mélange entre son imagination et le monde qui nous entoure, ce qui explique qu'on n'ait pas toujours les mêmes perceptions de la même situation. Et dans le cas de l'apnée, il reçoit de la part de ses capteurs des alarmes d'angoisse. Attention, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Et là, ce que tu me dis, c'est que le jeu, c'est d'essayer de choisir l'expérience de pensée que tu vas avoir à ce moment-là, plutôt
Exactement.
que de dire c'est difficile, c'est inconfortable, combien de temps il reste, d'essayer de tenir, d'être dans la musculation, dans le combat, etc. Au contraire, d'être dans l'acceptation, d'être dans la gratitude et de réussir à trouver de la clarté et du confort dans l'inconfort. Et en fait, ça rejoint un petit peu certains principes de l'hormèse, où tu vois le fait de s'exposer au froid, par exemple, outre les adaptations physiologiques que ça peut apporter, ça a surtout l'intérêt de t'apprendre à trouver du confort dans l'inconfort.
C'est de l'hormèse, Blaise. C'est de l'hormèse. C'est complètement de l'hormèse. De façon, la vie est hormétique, puisque même quand on parle de... Comment est-ce qu'on dit en français? Est-ce que l'homéostase, ça veut dire quelque chose?
L'homéostasie, ouais.
L'homéostasie, d'accord. C'est ce qu'on recherche tous, c'est l'homéostasie. C'est l'équilibre idéal dans lequel on se sent bien. Mais tout le monde a dû passer par des phases de développement pour obtenir cette capacité à l'homéostase. Et donc, il faut l'entretenir. Il faut toujours l'entretenir parce que sinon, elle se perd. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'inconfort physiologique et par conséquent mental et émotionnel tous les jours de leur vie parce qu'ils vivent une vie dite normale sans se poser de questions. Sans faire attention sur ce que sont les fondamentaux justement, de l'équilibre physiologique, mental, émotionnel. Donc, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'entretien. Maintenant, c'est peut-être anglais. Il n'y a pas d'entretien, donc il n'y a pas de travail. Donc, il y a un déficit, donc il y a une détérioration. Voilà. Donc, c'est difficile de trouver l'équilibre, parce que pour trouver cet équilibre, il faut aller. Faut se mettre en déséquilibre. Il faut se mettre en déséquilibre pour restaurer l'équilibre à un niveau supérieur du niveau de challenge quotidien en quelque sorte. Donc, par exemple, pour être bien assis, allongé. Attends. Excuse-moi, petit moment. Pardon? Sorry, can I show you before? Don't start like you. You need to move the car? Yes, sir. Just one second. Would you mind doing it? Appreciate it. Yes, sir. Thank you. Bon, désolé pour ça. Ouais, donc, il faut placer la barre un petit peu plus haut de façon à pouvoir. Être confortable quand la barre est plus basse, tout simplement. Si on place la barre sans arrêt plus bas, on est de plus en plus dans l'inconfort. Donc, effectivement, c'est le concept de l'hormèse, c'est le concept d'équilibre et d'harmonie. Chercher l'harmonie, c'est pas forcément, on va pas chercher l'harmonie dans l'harmonie. Chercher l'harmonie et parfois aussi dans dans le chaos. On va chercher l'aisance dans la difficulté. C'est pas très compliqué de comprendre ça, mais ensuite, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer suffisamment et aussi à plusieurs niveaux de l'existence. Parce que l'existence, c'est. Il y a plusieurs types d'énergie. Il y a plusieurs types d'énergie, donc il y a plusieurs types de pratiques qui sont nécessaires. En particulier, c'est l'exercice de la conscience qui est le plus délicat, le plus critique, le plus important, puisque cet exercice de la conscience peut nous rendre misérables ou peut nous rendre au contraire heureux, indépendamment des circonstances externes. Et je ne dis pas que les circonstances externes de la vie, ce qui vient à nous et qu'on n'a pas choisi, ne puisse pas nous affecter, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, et on le sait tous, c'est que notre propension personnelle faire du poids dans la balance, si je m'exprime bien en français, mais à nous influencer nous-mêmes, c'est ça le but, c'est quelle influence a-t-on sur soi? Parce que, en fonction de cette influence et de ce type d'influence, eh bien, notre vie va avoir telle ou telle couleur, tel ou tel parfum, telle ou telle telle et telle sensation. C'est un peu métaphorique ce que je dis, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Donc, faire attention à chaque moment, aussi souvent que possible, dans le moment, à la façon dont on utilise cette énergie psychique. Forcément une énergie psychique, donc mentale, donc c'est forcément aussi émotionnel et c'est forcément aussi de l'ordre spirituel. Il n'y a pas de ah oui, tiens, j'ai eu un moment spirituel, c'était il y a 10 ans de ça. Non, c'est chaque personne vivante est une expérience spirituelle. Il n'y a pas de bouton, j'éteins la lumière, je coupe le contact, ça n'existe pas. À partir du moment où tu es dans la conscience, tu es dans l'exercice spirituel. Et ça n'a, il n'y a pas de début, de fin, il n'y a pas de tiens, je mets ça en dormant, là, je vais faire n'importe quoi. Non. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même une personne qui se dit moi, je suis pas du tout spirituel, c'est amusant parce que même quand tu dis ça, tu es dans l'exercice spirituel. De toute façon, tu ne peux pas ne pas y être. Tu es dans la conscience. Donc, tu es dans l'esprit, donc tu es dans la spiritualité. Alors après, la question c'est qui y fait attention? Donc c'est ça de façon typique qu'on appelle la spiritualité. C'est l'idée de la conscience qui fait attention à elle-même, qui s'observe elle-même et aussi qui se modifie elle-même. Parce que c'est pas juste, oh, je m'accepte tel que je suis. C'est bien. Mais le but, c'est la création. C'est la création de l'expérience. Ce n'est pas la fin de l'expérience. Ce n'est pas le déni de l'expérience. La spiritualité, ce n'est pas de dire tout est illusion. Et par conséquent, rien n'a d'importance. Et l'idée, c'est de ne plus penser. On n'est pas des plantes. Tout l'amour et le respect que j'ai pour les plantes. Nous ne sommes pas des plantes, donc on n'attend pas, et même les plantes d'ailleurs ont conscience et ont des émotions, et on le sait maintenant. Mais même en imaginant que ce ne soit pas le cas, une plante est dans un pot, par exemple, elle attend qu'on la mette au soleil, ou qu'on la retire du soleil, qu'on lui donne de l'eau, le bon montant d'eau, etc., qu'on s'occupe d'elle. Nous, on est des créatures, au plan biologique, on est des créatures bien entendu vivantes, mais aussi très animales. On a une interaction beaucoup plus versatile avec le monde. Et donc, on doit faire usage de notre corps, mais on doit aussi faire usage de notre conscience. Donc, le but, c'est aussi pour cette conscience, d'être capable de se connaître et d'être capable de de s'exprimer, de créer sa propre expérience de la façon la plus désirable possible. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on pratique ça? On peut le pratiquer dans la vie, bien entendu. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir des moments de pratique et je le fais à travers l'apnée.
Enfin, je trouve que dans cette exploration de la conscience, parce que tu parlais du corps, de la conscience, et tu vois, moi, j'ai l'impression que en biologie, on dit que n'importe quel être vivant est designé prioritairement pour la survie et pour la reproduction. Et puis, quelque part, la performance humaine, qu'elle soit physique ou mentale, et l'exploration de la conscience pourrait être considérée comme une forme de performance, n'est possible que si les besoins physiologiques et de sécurité sont correctement adressés. Et du coup, je me demande, et c'est un petit peu en écho aussi à ta vie, et à la façon dont ça s'est orchestré, dans quelle mesure, Movnat a justement pas créé le terreau de cette exploration de la conscience que tu as aujourd'hui au travers de l'apnée, même si évidemment tout ça n'est pas noir ou blanc et c'est pas fait du jour au lendemain et a toujours dessiné en pointillé ton expérience de vie. Mais tu vois, moi quand j'ai découvert Movnat, il y a deux trucs qui m'ont marqué. Le premier, c'est la partie jeu, c'est-à-dire que soudain, c'est comme je te parlais tout à l'heure de changer les lunettes avec lesquelles tu regardes le monde. Soudain, le monde est devenu un terrain de jeu géant. Que ce soit un milieu urbain ou naturel, tout était prétexte à sauter, à escalader, à marcher en équilibre, à soulever des choses, etc. Donc il y avait cette notion de jeu et cette notion aussi d'être capable d'être un petit peu un héros. Parce que, tu vois, d'ailleurs, en biologie, on dit que fitness, c'est l'adaptation d'un être vivant à son environnement. Et en réalité, dans le sport, il y a beaucoup de gens qui ont l'apparence de la fonctionnalité, mais pas la fonction qui va avec. Et j'en ai fait partie. Et avec Movnat, j'avais l'impression d'être capable de tout faire parce que je me sentais instinctivement et reconnecté à mon instinct, justement, animal. Parce que je dis instinctivement, alors qu'en fait, c'est un petit peu ça, tu vois. Je redevenais une forme d'animal, mais dans toute sa beauté, pas dans son côté bestial, mais plutôt dans son côté exubérant. Et du coup, je me demande dans quelle mesure est-ce que cette première étape de ta vie n'a pas été justement le socle de cette pyramide dont la pointe serait aujourd'hui cette quête spirituelle, même si, comme tu l'as bien expliqué, la spiritualité est la définition même de l'homme.
Oh non, moi je l'ai toujours eu, d'autant que je me souvienne, quand j'étais petit, j'avais déjà des grandes questions existentielles, tout petit. Mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti que la base physique, c'était la base. Que par le mouvement, moi j'étais souvent donc dans les bois, dans la forêt, des rochers j'habitais à côté d'une espèce de mini Fontainebleau, et donc j'adorais être dehors. J'étais autorisé à être dehors tout seul, hein. J'allais tout seul dans les bois, même tout petit, j'y allais tout seul. Et je me souviens le matin, tous les matins, j'ouvrais la fenêtre. Première chose, j'ouvrais la fenêtre. Quand je me réveillais, j'ouvrais la fenêtre juste pour sentir l'odeur du matin. Chaque matin avait une odeur différente, mais l'odeur de l'air frais, alors en fonction du temps, de la saison, ça changeait le. Donc la vie physique, c'est extraordinaire. La vie physique, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on aurait même une personne qui s'intéresse, par exemple, à la philosophie, à la spiritualité? Imaginons qu'on te retire ton corps complètement. Maintenant, tu n'es plus quoi? Qu'une conscience qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne sent rien du monde physique. Juste une conscience, donc qui se parle et qui ne peut pas donc parler non plus à d'autres consciences. Donc une conscience seule, isolée, dans le noir, dans le silence complet, sans aucune stimulation. D'aucune forme, aucune interaction, d'aucune forme avec quoi que ce soit, qui que ce soit. Qu'est-ce qu'elle est cette conscience? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle s'éclate? Est-ce qu'elle est heureuse, cette conscience? Elle fait quoi? Elle se parle à elle-même? Elle se dit quoi? Donc, le corps, c'est merveilleux. Et le mouvement, la nature, le corps, c'est une unité biologique. Et donc, qui vient de la nature, qui est fait de nature, qui est né de la nature, qui a besoin d'être en immersion dans la nature autant que possible. C'est en soi une grande source de spiritualité, en fait. C'est en soi une, parce que c'est en soi une grande source de d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience absolue, l'expérience, qu'est-ce que c'est l'expérience absolue? D'où, c'est quoi la source de l'expérience? Et donc, si on imagine une source absolue, ensuite elle se divise en quoi? En noir et en blanc, en bien et en mal, je ne sais pas. Et puis ensuite, de plus en plus. Et à la fin, tu as des arbres et des plantes et des montagnes et des nuages et des planètes et toutes sortes d'animaux et toutes sortes d'humains, etc., etc. Cette expérience, cette perception qu'on a de la réalité, elle continue de se multiplier comme ça et de se définir par le contraste. En fait, la conscience elle-même, c'est la perception du contraste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le contraste? C'est la différence. Qu'il y a une différence. Si on était dans l'absolu absolu, comment il n'y a plus de contraste? Donc comment est-ce qu'il peut y avoir de conscience dans cette absence de contraste? Donc effectivement, être humain, c'est être un corps, c'est être un animal, c'est être fait de nature, être dans la nature. Et donc pour moi, la base de la spiritualité, c'est en fait c'est une base biologique. Puisqu'elle nous permet de faire l'expérience de cette incroyable diversité de sensations, de couleurs, le temps, l'espace, les tout quoi, toutes les sensations qui existent. Si on n'avait pas ce corps, si on n'avait pas cette vie physique, si on était juste cette conscience qui n'est capable que de penser et donc de se parler à soi-même et de s'écouter soi-même, à travers toutes sortes de représentations qui ne sont pas la réalité elle-même. Quel type de vie on aurait? Qu'est-ce que ce serait quoi la vie? Ce serait quoi le but? C'est quoi la satisfaction? Qu'est-ce qu'on en ferait de cette conscience? Il en resterait quoi? Est-ce que ça vaudrait le coup? C'est difficile à dire. Donc effectivement, oui, c'est une base. Et donc pour moi, enseigner Mouvenat, c'était, je le dis d'ailleurs dans mon bouquin, pour moi, me mouvoir naturellement, c'est une expérience physique de mon esprit. Et c'est une expérience spirituelle de mon corps. Parce que de toute façon, il n'y a pas de différence. C'est pas dissociable. On peut le dissocier seulement en raisonnement intellectuel, mais pas le dissocier en termes d'expérience réellement. Vouloir se mouvoir, vouloir aller dans la nature, c'est vouloir une expérience spirituelle. Vouloir manger un plat en particulier, c'est une expérience spirituelle. Vouloir faire du bien aux autres ou vouloir du mal aux autres, c'est une expérience spirituelle. Tout est une expérience spirituelle. Il n'y a pas de différence. La spiritualité, ça commence ni dans une église, ni dans un temple, ni à un certain moment, ni avec un certain livre, ni avec. Non. On y est tout de suite. On est maintenant, tout de suite. Tout le temps. Il n'y a pas de je sors, je rentre, j'y vais pas. On y est tous, tout le monde y est. La question, c'est de quelle façon est-ce qu'on y est? Voilà. Donc, s'exprimer physiquement, c'est magnifique. S'exprimer émotionnellement, intellectuellement, tout est beau dans la. Tout peut être. On peut faire en sorte de rendre les choses belles de par l'intention, de par l'attention, de par le choix. C'est un choix créatif. En fait, dans être en vie, c'est être un esprit, c'est une âme, c'est être une âme. C'est pas en avoir une, c'est en être une. Et donc, cette âme, elle est pas là juste pour observer, juste pour pour être sans rien être, elle doit se définir. Et elle se définit par de plein de façons. Elle se définit en chaque moment. Les pensées qu'on crée, les émotions qu'on crée, parce qu'on crée beaucoup d'émotions. Les circonstances qu'on crée, les expériences qu'on crée. On crée des expériences à l'intérieur de cette expérience. La question est, voilà, donc Shakespeare avait raison, to be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être. Évidemment, quelqu'un qui se pose la question, forcément, est être. Il faut être pour avoir la conscience d'être. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est comment être. C'est que choisir d'être. Quel est le niveau de conscience dans ce moment d'être qui est à chaque moment? Autrement dit, il faut s'observer. Il faut s'observer. Il faut se dédoubler presque. C'est un jeu de miroir. Il faut se dédoubler pour pouvoir se connaître. Il faut s'observer au moment d'être. Le faire, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le souhaite, c'est pas tout le monde qui le veut, et je pense que tout le monde en est capable, mais c'est pas tout le monde qui le veut. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est le monde de la conscience. La conscience individuelle, ça fait partie de ce contraste, de cette variété de l'univers, de la réalité telle qu'on la connaît. Et puis, dans cette variété, bah, il y a évidemment beaucoup de différences, et il y a du choix. C'est le choix de chacun.
Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu vis de façon très très organique, très instinctive, très connectée justement à cette conscience, en essayant de mettre de la conscience dans tout ce que tu fais, mais en te laissant aussi guider par ton cœur, par ton instinct, par cette recherche d'harmonie et d'équilibre entre le corps, l'esprit, le fait de se mouvoir, de donner aux autres, de créer aussi, de transmettre. Et pour autant, plutôt, on parlait de discipline personnelle inhérente au fait de réaliser de grandes choses. J'imagine que pour battre tes records d'apnée, tu dois t'astreindre à un entraînement qui est codifié, qui est engageant pour maintenir les capacités physiques que tu as développées avec Movnat aussi. On t'a vu dans une vidéo qui t'a rendu célèbre courir sur un pont à, je sais pas, 30 mètres de hauteur, escalader des rochers, etc. Enfin, faire tout un tas de choses qui semblaient simples. Parce que tu les maîtrisais parfaitement bien, alors qu'elles étaient extrêmement complexes en réalité. Tu es aussi entrepreneur entre Movnat et puis maintenant la méthodologie que tu as développée vis-à-vis de la respiration et de l'apnée, de ce travail de méditation. Tu es père de famille. À quoi il ressemble le quotidien d'Erwan Le Corps aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis? Tu vois, tout à l'heure, excuse-moi, je vais préciser. Tout à l'heure, tu disais, on a cette espèce d'énergie vitale et le jeu, c'est de choisir, d'en avoir conscience et de choisir dans quoi est-ce qu'on la déverse. C'est quoi ta boussole? Comment est-ce que tu choisis où tu la déverses?
Ouais, alors bon, juste, il me reste plus que 3 minutes de batterie là, je vois. Donc, excuse-moi pour ça aussi. Bon, il faudra que j'aille chercher le câble. Ma vie, tu vois, quand tu regardes la vie de tout un chacun, qu'est-ce qu'on a en commun qui est la même chose pour tout le monde? On respire à chaque moment, on est en vie à chaque moment, on a un corps qui a des besoins à chaque moment. Donc, on doit se nourrir, s'abreuver, on doit aussi se reposer, on doit aussi être actif, etc. Donc ça, c'est commun à tout le monde. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est le différentiel, effectivement, le plus important, c'est la façon dont cette conscience, c'est l'expérience de la conscience, en fait. Donc pour moi, il y a deux choses. C'est l'une, c'est comment est-ce que je m'occupe, on va dire, sur le plan pratique, plan physique, physiologique. Comment est-ce que je m'occupe? Qu'est-ce qui m'intéresse? Mis à part toutes les tâches du quotidien, hein, faire un repas, s'occuper des enfants, le travail, etc. Dans les moments de libre, qu'est-ce qui m'intéresse de faire? Bon, moi, j'aime aller courir, j'aime aller dans la nature, j'aime faire mes étirements, mes entraînements d'apnée. Donc, c'est de la méditation, en fait, hein, c'est une méditation. Et pour le reste du temps, c'est d'avoir autant de possible de vivre cette expérience spirituelle que l'on est tous, et donc que je suis aussi, avec le plus de conscience possible, avec le plus d'attention possible. Et donc de former cette expérience. C'est un mélange de, il y a un mélange de spontanéité et il y a un mélange parce que bon, mais là, il faut regarder on dit en français la neuroplasticité.
Tout à fait.
Voilà, il faudrait qu'on parle de neuroplasticité. Qu'est-ce que ça veut dire être soi au niveau neurologique et comment est-ce qu'on peut se changer et comment est-ce qu'on peut devenir une autre personne tout en restant le même ou la même. Donc, bon. De la même chose qu'on peut gonfler les muscles, changer leur forme un petit peu, enfin en tout cas, bon bref, par l'entraînement physique, eh bien l'entraînement mental, psychique et donc émotionnel aussi, hein, c'est de l'entraînement en fait neurologique, va changer certains aspects de la structure physique, biochimique du cerveau. Et donc c'est pas visible de l'extérieur, mais c'est visible de par le comportement de la personne. Alors, il ne me reste plus qu'un pour cent. Donc en faisant attention à l'expression de soi, on peut modifier l'expression de soi vers un résultat, vers une expérience qui est la plus proche possible de ce que l'on souhaite être, de qui l'on veut être. Donc il faut choisir qui on veut être et ensuite il faut en faire l'expérience. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ça que je fais tous les jours. Quand je pense à qui je veux être, je ne pense pas juste à quoi je ressens, comment je suis coiffé aujourd'hui. Je pense à quelles sont mes pensées, quels sont mes sentiments, quelles sont mes émotions, quelles sont mes aspirations. Tout de l'ordre de l'intangible. L'intangible, c'est plutôt important. La
C'est comme ça que tu démarres chaque
satisfaction.
journée? Chaque journée, tu te demandes, tiens, qui est-ce que je veux être? Et est-ce que mes actions du jour
Non,
me rapprochent?
je le sais déjà. Je sais déjà. C'est juste de faire attention à être dans l'ambiance
De ce
interne
choix.
que j'aime. C'est une ambiance en fait, c'est une ambiance. En soi, il faut créer cette ambiance comme ça, c'est une ambiance à maintenir. Donc on appelle ça un état d'esprit. État d'esprit, c'est une vibe, hein. C'est un feeling, c'est une ambiance. Tu sais quand tu y es ou pas.
Erwan, tu es de retour. Comme tu le disais, ça s'est terminé, ça a coupé à un moment parfait, idéal. Donc, je pourrais encore te poser des tas de questions, mais je vais m'arrêter là. Mais j'ai quand même envie de t'emmener sur mes petites questions de fin, qui sont un peu plus pratico-pratiques, comme je le disais, mais qui permettront à nos auditeurs de repartir avec des outils peut-être un petit peu plus concrets, qui pourraient probablement implémenter dans leur quotidien. Alors, est-ce que tu pourrais me dire trois choses indispensables que tu fais dans toutes tes journées et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel?
J'ai jamais pensé comme ça, mais si je fais attention, bon, la première, ce qui est indispensable, c'est tout simplement, c'est l'attention. L'attention. Deuxième chose absolument indispensable, hein, donc tu as bien dit, c'est pour exprimer ton potentiel maximum. Bon, voilà, l'attention. Deux, l'attention. Et trois, l'attention. Voilà, parce que sans attention, hein, c'est comme location, location, location. Donc, c'est la même chose. L'attention, c'est le location du business, quoi. Hein, si tu es dans le business de l'esprit, si je peux m'exprimer, donc on parle un peu métaphoriquement, sans attention, parce que quand on dit un business, c'est location. Donc, l'emplacement du business est essentiel pour le succès du business. Cet emplacement, ça peut être parfois immatériel, hein, ça peut être une niche. J'utilise une métaphore que peut-être certains comprendront mieux. Qu'est-ce que c'est l'attention? L'attention, c'est le centre de ta conscience. Donc, c'est le location de ton business spirituel, si je puis dire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, attention, attention, attention. Le moment où tu ne fais pas attention, c'est le moment où finalement tu n'as aucune possibilité de décision. Parce que tu es dans le programme. Donc c'est réflexif. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être en permanence dans. Faut pas être en permanence dans faire attention à ton attention, mais l'attention est capable de se voir elle-même. C'est ça. Et donc c'est une question d'équilibre. Pour la plupart des gens, des consciences qui sont là dans le monde, l'attention, elle est portée vers l'extérieur. Alors que l'attention a la capacité ou la possibilité de se porter sur elle-même, de se regarder elle-même, de s'observer elle-même, et donc c'est à ce moment-là que elle peut se modifier elle-même, mais en fonction de son intention. Voilà. L'intention, bien entendu, c'est très important aussi parce que, en fait, l'attention est au service de l'intention. Ah, bon, je sais pas, je veux compliquer les choses, mais l'intention, c'est le désir, le souhait d'un résultat, donc d'une expérience. Puisque nous, ce que nous sommes, c'est une expérience. Donc l'intention, c'est l'intention, on va dire, d'avoir une expérience, mais en fait, c'est l'intention d'être une expérience, d'une certaine façon, à travers un contexte, des feelings, des mots, des pensées, donc, ou un contexte extérieur. Donc cette intention, c'est la base, être bien clair avec ses intentions. Ensuite, l'attention, elle est là au service de l'intention, de façon à permettre de prolonger cette intention et de la manifester. Donc, c'est ça la source d'une expérience bien choisie, bien exprimée, bien vécue, et donc bien satisfaite. Voilà.
J'imagine que la question suivante, qui est encore un petit peu plus matérielle, te plaira d'autant moins. Est-ce qu'il y a un outil que tu as acheté récemment et qui a changé ton quotidien?
Bon, franchement pas, non. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Quelque chose que j'aurais acheté et qui aurait changé mon quotidien.
Ou qu'on t'aurait donné?
Allez, une paire de lunettes de natation. Que je t'explique, moi, mon quotidien, une grande partie de mon quotidien, c'est de faire ma méditation en apnée, en piscine. Donc dans l'eau. Et avoir une paire de lunettes qui est parfaite, qui me dérange pas, qui est légère, mais aussi très claire. Ça me permet d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et donc d'utiliser ma vision, le côté visuel, dans le cadre de ma méditation. Donc de changer mes angles de vue, etc., de voir les rayons du soleil dans l'eau, etc. Et c'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, je faisais mes apnées en fermant les yeux. Et des fois en les ouvrant, mais sans lunettes, donc tu vois un peu trouble. Et en fait, je vais mettre des lunettes, des bonnes lunettes claires de natation, ça a vraiment changé. J'ai commencé à comprendre l'intérêt aussi de faire des méditations les yeux ouverts. Donc plusieurs minutes d'apnée à la suite, mais en gardant les yeux ouverts. Très intéressant. Voilà, donc une paire de lunettes de natation.
Est-ce que tu aurais un défi à proposer à nos auditeurs pour les 15 jours à venir, quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou bien une seule fois et qui pourrait permettre de découvrir, d'explorer de nouvelles facettes de leur physique ou de leur mental?
Ah oui, bien entendu.
Attention, attention, attention.
Bien entendu, un défi. C'est très très simple. Ça ne demande aucun équipement, aucune expérience. Et ça peut se faire quasiment n'importe où, à n'importe quel moment. C'est tout simplement de prendre une bonne respiration, une bonne inspiration et de retenir son souffle. Et le défi, en fait, n'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire que le défi n'est pas de dire je vous défie de retenir votre respiration pendant 1 minute ou 2 minutes ou 3 minutes. Mon défi, c'est celui de rester calme mentalement et émotionnellement et physiquement et de conserver de la clarté d'esprit, à la patience, etc., le plus longtemps possible pendant cette apnée. Voilà. C'est un défi parce que quand je dis défi, en fait, je ne dis pas, écoutez, vous n'en êtes pas capable. Au contraire, je dis, écoutez, c'est un défi parce que c'est difficile, mais vous en êtes capable. Et justement, c'est un défi parce qu'il y a un avantage ou il y a une récompense si vous défiez vous-même. C'est pas moi qui vous défie, c'est est-ce que vous voulez vous défier vous-même? Et en fait, dans ce défi, vous allez vous rendre compte que le défi est complètement inutile et même stupide. La question n'est pas de se défier. La question, mais bon, parfois l'état d'esprit, ça peut être utile. Donc on peut se défier un petit peu. Mais au final, ça va être au contraire de coopérer avec soi-même, de coopérer avec son propre esprit. Voilà. Donc, est-ce que vous serez capable de rester calme, de rester clair dans votre esprit, ou bien est-ce qu'au contraire, vous allez tout simplement avoir toutes sortes de pensées négatives, de la frustration, de l'impatience, du doute, etc., etc. Voilà. Sachant que tout ce qui se passe dans votre esprit, bah, c'est sur votre compte, quoi. C'est une expression, la source de ce qui se passe dans votre esprit, bah, vous en êtes responsable, quoi, en fait. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre esprit. Alors, qu'est-ce que vous êtes en mesure d'exprimer? Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer, malgré le stress physiologique? Très prévisible, très universel, c'est, on vient de le dire, c'est l'impatience, le doute, la frustration. Toute forme de négativité. Très prévisible, très universel. C'est les, comme on dit, c'est les settings, comme on dit en anglais, en français, je veux dire, les configurations.
Ouais, les paramètres, ouais, bah c'est Uberman aussi,
Voilà. C'est
c'est
les
Uberman aussi,
paramètres.
tu sais, qui dit que le cerveau essaie toujours de prévoir qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer et quel sera le résultat attendu. Le cerveau, en fait, il est toujours en train d'anticiper ça. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, là, t'écoutais, je fais une petite parenthèse, mais parce que j'ai réalisé ce défi-là ce matin en prévision de notre call, et donc j'ai tenu 2 minutes en apnée. Et sur ces 2 minutes, bah, au début, ça allait, et puis après, j'ai commencé à me poser des questions. Combien de temps ça fait? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que je vais être bon? Est-ce que ça va être un bon score? Est-ce que là, j'ai envie de respirer? Est-ce que je peux encore tenir longtemps? Enfin, en fait, tu vois que très rapidement, tes pensées s'emballent et sur des trucs, vraiment pas importants, quoi. Très, très
Exactement.
égotique, très égotique.
Voilà. Donc, quand on dit être maître de son esprit, alors voilà, qui veut être maître de son esprit? Voilà. Qui veut être maître du monde? Moi, moi, moi. Qui veut être maître de son esprit?
Et tu vois, ça me fait penser. Je refais une petite parenthèse là-dessus, mais j'ai suivi aussi ta petite initiation, là, l'initiation à ta formation. Je mettrai le lien dans les notes de l'article. Je vous recommande de la suivre. Ça dure 10 minutes et c'est vraiment sympa. Et dedans, tu parles du single breath recovery. où tu mets un minuteur de 10 minutes et puis tu prends une inspiration comme tu veux, tu retiens ton souffle, t'expires, tu reprends une inspiration, etc. Bon, les gens regarderont l'initiation pour avoir plus de détails, mais j'étais surpris au début, tu vois, en voyant ça, que tu donnes pas d'indication sur comment faire l'inspiration. Est-ce que tu fais une grande inspiration yogique en utilisant chaque étage le diaphragme, les côtes, etc. Ou bien est-ce que tu fais juste diaphragmatique? Est-ce que tu prends beaucoup d'air, pas beaucoup d'air? Et en fait, je comprends maintenant. Et tu disais pas non plus, est-ce qu'il faut, enfin si, tu disais il faut se challenger mais pas trop, et en fait je comprends maintenant, après 2 heures de conversation avec toi, pourquoi. C'est que en réalité le but de l'exercice c'est pas tant les adaptations physiologiques, c'est l'exploration mentale de trouver ce confort dans l'inconfort.
Exactement, c'est pas, il y a pas de standard, c'est pas une performance qui, bon, on mesure un petit peu, mais la mesure n'est pas l'essentiel de ça. L'essentiel c'est de, oui voilà, d'avoir un début d'expérience et de comprendre le potentiel de cette pratique par l'expérience, une fois de plus, d'avoir la connaissance par l'expérience est beaucoup plus important que la connaissance par le concept ou l'intellect. Enfin, en tout cas, à mon sens, la plupart du temps, c'est savoir parce qu'on fait l'expérience et non pas savoir parce qu'on croit qu'on sait. On a une interprétation. Par exemple, on peut connaître l'existence de la Lune parce qu'on peut la voir, mais toutes les autres planètes qu'on ne peut pas voir, et on peut par exemple imaginer Saturne et on pense qu'on connaît Saturne. Personne n'est allé sur Saturne, personne n'a vu Saturne. Donc il faut des outils technologiques très sophistiqués pour pouvoir nous donner à nous une interprétation complètement intellectuelle de ce que c'est que cette planète. De la même façon, le fond des océans, l'intérieur du corps, etc. Personne n'a vu l'intérieur du corps, personne n'a vu l'intérieur des intestins ou la forme du cœur, etc. Il faudrait pouvoir ouvrir une personne pour faire ça. C'est épouvantable comme idée. Mais il y a toutes ces choses que l'on sait sans les savoir. On les sait parce qu'on a des représentations. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'essentiel de notre vie, c'est tout ça, ce sont des interprétations. C'est pas une connaissance qu'on a qui est une connaissance physique, une connaissance par nos sens. C'est une connaissance intellectuelle. Donc c'est une interprétation. Voilà. Donc faire un exercice de ce type-là, ça permet de bien dissocier la différence entre ce qui est de l'ordre de la sensation réelle à travers les chémorécepteurs, etc., tous ces capteurs dont tu parlais, les capteurs internes du corps qui te disent « Ok, je ne respire plus, qu'est-ce qui se passe ?» Ces capteurs-là ne définissent pas ton expérience. Ils t'informent. Ils informent. C'est le corps qui s'informe lui-même sur une expérience ou sur une réalité, à un moment donné, une réalité physiologique. Ensuite, il y a une réponse hormonale, qui est donc physique aussi, hein, chimique, hormonale, et donc là, ça atteint la neurologie, et ensuite, ça atteint le mental, donc la conscience, et puis ensuite, ensuite cette conscience, elle doit décider comment est-ce qu'elle interprète tout ça. Donc la partie physique, c'est une chose, et ensuite, la partie interprétation, c'est tout à fait autre chose. Donc être capable de respirer ou de ne pas respirer justement, de retenir sa respiration pendant très longtemps, c'est être capable de faire une dissociation très claire entre ses sensations physiques et l'interprétation qu'on en fait et la petite histoire qu'on se raconte à soi-même, puisque penser, c'est se parler à soi-même et s'écouter soi-même. Quel est le message? Quelle est la petite histoire? Quelle est l'interprétation? Donc, bien comprendre la place, l'importance de cette interprétation, c'est une chose. Deux, c'est observer cette interprétation en temps réel, quand elle se passe. Trois, c'est prendre le contrôle, c'est de décider, ok, voilà, ça c'est l'histoire que je vais me raconter. Et je vais la rendre vraie. Ça c'est l'interprétation que je veux de cette expérience. Ça c'est l'expérience que je veux, peu importe mon expérience physique, voici l'expérience mentale, émotionnelle et spirituelle que je désire. Voilà, c'est ça. C'est un exercice mental, émotionnel, c'est un exercice spirituel.
Je vais m'y astreindre 10 minutes tous les jours pendant un mois et puis je ferai un petit feedback dans la newsletter de Limitless Project. Pour ceux que ça intéresse, donc je mettrai de toute façon le lien dans les références de l'article. On retrouve tout ça sur
Faut
Breathwork.
qu'il soit anglophone quand même, hein, parce que c'est tout en anglais. C'est tout en anglais, bah, parce que
Bon,
j'ai.
ça va, franchement, Erwan, t'articules hyper bien. Il y a des Anglais qui natifs qui articulent pas du tout. Toi, t'articules super bien. Franchement, t'es facile à comprendre.
Bon, je te remercie. Oui, d'ailleurs, tu disais, tu parlais de certains de mes participants. C'est en fait tous mes participants, double, triple, quadruple, et ça a été même pour certains, ils ont multiplié par 6 leur temps d'apnée en l'espace de 4 semaines. En
Fou
fait,
ça.
c'est les mêmes résultats, je pourrais les obtenir en l'espace de quelques jours. Si, parce que bon, là, le programme que je fais, ces résultats, c'est avec les gens qui ont fait le programme avec moi en ligne, donc en live. Et c'est deux sessions de à peu près 3 heures par semaine, donc sur 4 semaines. Mais quand je fais de l'enseignement avec les gens, ils sont là en direct, ça se passe, la même chose se passe en l'espace de quelques jours, en 4-5 jours. Je dis ça, je rebondis un peu là-dessus parce que j'ai rebondi longtemps après qu'on ait commencé ce podcast, puisque je crois que tu l'avais mentionné à un moment en disant c'est pas possible en termes d'adaptation physiologique. Effectivement, c'est bien la preuve que les adaptations physiologiques qui, elles, demandent beaucoup plus de temps que ça pour se mettre en place, ne sont pas responsables pour ces changements. Donc, qu'est-ce qui est responsable pour ces changements et donc ce changement de performance? Effectivement, une multiplication de la performance très significative, c'est de l'ordre de l'esprit en fait. C'est la mentalité. La mentalité, c'est-à-dire l'état d'esprit, c'est-à-dire la façon dont l'esprit ou la conscience approche l'expérience et se manipule soi-même. Et c'est ça que j'enseigne aux gens. Donc, en fait, on est capable d'obtenir des résultats très très rapides, alors que les changements, les adaptations physiologiques, moi par exemple à mon niveau, faire du progrès en termes de temps, hein, donc faire des apnées plus longues, ça me prend des mois, ça me prend des années, parce que je suis à une limite physiologique. Donc c'est la limite pour moi, c'est de l'ordre de l'adaptation physiologique. Mais pour les gens qui ne font pas d'apnée, l'adaptation, elle est de l'ordre mental, psychologique, donc psychologique et émotionnel. Et cette adaptation-là peut se faire très très vite. Et en fait, c'est même pas seulement juste une adaptation, c'est tout simplement comprendre. C'est même juste comprendre. C'est-à-dire l'esprit, la cognition qui comprend, qui dit, ah, c'est comme ça que ça se passe. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse en esprit. En mental. Voilà.
Et tout ça se passe sur breastholdwork.com, c'est ça?
Non, pas Brest.
Bref.
Je suis breton d'origine, mais comme Breath, ouais, voilà, Breath of Work. Oui, c'est ça. Donc, parce que tout le monde connaît le Breath Work. Même en France, je crois qu'on utilise Breath Work maintenant, probablement. Ou travail respiratoire, peu
Oui, tout à
importe.
fait, tout à fait.
Voilà, donc Breath Hold Work. Tu as breath work dedans et tu as breath hold work, donc ne pas respirer, retenir sa respiration, qui est. Donc moi, je l'enseigne de façon méditative, philosophique même, et spirituelle. C'est pour moi tout ça, c'est la même chose. Il y a pas, c'est juste des labels différents, des adjectifs différents sur un phénomène qui est du même ordre. Parce qu'au final, le temps passé à ne pas respirer, c'est pas très important. C'est juste une exemplification de ce qui se passe au niveau mental, émotionnel et spirituel, qui est intéressant. Mais le plus important, c'est de se connaître soi. De se connaître soi et d'être bien avec soi. Donc la méditation, ça sert à ça.
Erwan, merci pour tout. En écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out. Est-ce que tu as passé un bon moment? Comment est-ce que tu te sens maintenant?
Je me sens très bien. J'ai passé un très bon moment. C'était une bon, c'était comme une conversation quasiment, hein. Bon, évidemment, on est à distance et peut-être c'est vrai que si on était juste à la même table en train de boire quelque chose, on se parlerait peut-être différemment. Mais non, c'était très plaisant. Merci de m'avoir invité, puisque aussi ça m'a permis de partager avec ton audience ce que je fais et ce qui compte pour moi, ce que j'aime partager.
Eh ben je te remercie pour ce partage qui, moi, m'a beaucoup inspiré. Je suis ce que tu fais. J'ai beaucoup apprécié, comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'approche MOVENAT que j'ai pu découvrir grâce à Jérôme lors des certifications 1 et 2. J'ai pas encore fait le niveau 3, mais ça viendra. Et je suis content de découvrir maintenant toute cette facette d'exploration de la conscience par l'outil de l'apnée. Tu vois, je m'étais déjà intéressé à la respiration et à des méthodes comme Wim Hof ou aller Buteyko, etc. Et souvent elles sont abordées plutôt sur ces impacts sur la santé, sur la performance, sur la physiologie, donc de façon très très biologique. Et je trouve que ton approche, qui est beaucoup plus méditative, est extrêmement intéressante et me donne l'occasion d'un nouveau terrain de jeu d'exploration que j'ai hâte d'aller arpenter. Donc un grand merci pour tout ça.
Eh ben, merci à toi. Merci pour ta gentillesse et ton hospitalité. C'est une forme d'hospitalité, en fait, ce que tu fais. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai. À bientôt, merci Erwan.
Merci, David. Et
Et bon
merci
courage
à toi.
pour ton record.
Ouais, merci. Je te remercie. Ciao, ciao.
Tu connais l'effet papillon? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's HYDROW.com, code ROW500.
Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreecomedy to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond, whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at JamesAllen.com code ACAST. That's JamesAllen.com code ACAST.